Bonjour à chacune, à chacun. Ce matin, nous avons lu le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Et, c'est bizarre comme Épître, hein. Et en même temps, c'est surprenant. C'est une Épître où on voit le témoignage de l'apôtre Paul. Et on peut dire deux mots, souffrance et joie. Souffrance et joie. Alors c'est vraiment intéressant de se remettre un petit peu dans le contexte de cette lettre que l'apôtre Paul, qui est prisonnier à Rome, près de l'empereur, au prétoire, va adresser à une église qui se situe à des centaines de kilomètres en Grèce. La ville de Philippe, c'est une colonie romaine en Grèce, et c'est la première ville d'Europe où l'apôtre Paul est allé prêcher l'évangile. Et tout de suite, on trouve quelque chose d'ahurissant dans cette ville, dans ce témoignage, dès le début, dès les premiers jours. Eh bien, c'est ce contraste de souffrance et de joie. Et ça nous touche tout particulièrement parce que, en tant qu'être humain qui traversons l'existence, eh bien la souffrance fait partie de notre vie, de notre quotidien, de notre passé, de notre présent peut-être, de notre futur. La souffrance, on y coupe. Mais voilà qu'à Philippe, ce qui est surprenant, et ce que nous allons trouver dans la lettre que cet apôtre Paul va écrire aux Philippiens, c'est une épître de la joie, tout en tenant compte d'une réalité des souffrances. Alors je vous invite à prendre votre Bible dans un livre historique qui nous raconte les histoires, justement, c'est le livre des Actes. Et on découvre comment ce premier contact de cet évangéliste qui est l'apôtre Paul, qui sert Jésus et qui va arriver en Europe, en Grèce, dans la ville de Philippe, et qui par son témoignage est au milieu de souffrance. Eh bien, va vivre aussi la joie et va répandre la joie. Acte au chapitre 16. Et donc cette question de la souffrance de l'être humain sera ce matin au cœur de notre réflexion à partir de l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens qui va être le témoignage vécu de Paul. On va voir comment on se dit, mais c'est du délire ce gars, comment il fait? Comment il fait? Ça sera le témoignage avec un verset en particulier que nous allons examiner, un verset surprenant dans cet Épître aux Philippiens. Et puis nous partirons parallèlement dans un livre un petit peu plus théorique, l'Épître de Pierre, sur la question de la souffrance. Alors en acte 16, tout un récit qui commence au verset 12. Nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, en Grèce, et une colonie romaine. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville, était une femme craignant Dieu, elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. » Voilà la première convertie, voilà le groupe, voilà sa famille. Elle ouvre sa maison, une première église est née dans la maison même de cette Lydie. Et voilà que Paul va se mettre à parcourir la ville pour parler de Jésus. C'est le verset 16. Et voilà qu'une dame habité par un démon qui lui permettait de deviner les choses et qui, par son talent de devin, eh bien, faisait bénéficier à ses maîtres d'un grand gain financier, hein, parce qu'on payait pour les services. Elle va suivre Paul. Et elle criait, verset 17, « Ces hommes sont serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle le fait pendant plusieurs jours. Paul, il en a assez. Et il s'adresse au démon et lui dit, « Écoute, quitte cette femme-là. » Et là, la femme perd tous ses pouvoirs qu'elle avait de deviner les choses, etc. Et les propriétaires, là, ils ne sont pas contents. Verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent la ville, ils annoncent des coutumes qu'il n'est pas permis de recevoir, etc. La foule, verset 22, se souleva aussitôt contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Alors voilà, vous avez Paul et ses amis, ils arrivent, ils sont confrontés à une situation, et là, en quelques jours, hein, tout tourne très vite. Hein. On vous attrape, on vous enlève vos vêtements, on vous fait fouetter, on vous met en prison. Wow. Sans procès. Ce sera un problème après. Ils ont enfreint les règles, ils sont citoyens romains, etc. Plus tard, ça va être complexe. Hein. Mais, bam, en quelques secondes, tout tourne. Et nous, ça nous arrive aussi. Hein. En quelques secondes, notre vie, tout tourne, ça bascule. Tiens. Verset 25. Alors ils ont les cèpes aux pieds, hein, on les jette dans la prison intérieure, verset 24, on leur met les cèpes aux pieds. On dit, mais attends, comment ils vont réagir? Souffrance, épreuve, difficulté. Et puis ça n'arrive pas que aux chrétiens hein, d'être jetés en prison, injustement, enfin, je sais, ça arrive, c'est comme ça. Seulement, au verset 25, qu'est-ce qu'on découvre? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On trouve quelque chose de fort surprenant, c'est que des gens qui viennent d'être frappés, flagellés, mis en prison, dans leur situation de souffrance, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter les louanges du Seigneur. Ils ne sont pas effondrés, ils ne sont pas amers. Il y a un miracle, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est qu'il y a de la joie. Quand bien même dans la Et là, on dit, moi, je veux connaître ce secret. Comment est-ce que tu peux chanter dans ta prison après ce que tu viens juste de vivre la veille? Et voilà un premier témoignage. Comment l'église de Philippe va-t-elle se fonder? Mais sur ce témoignage du vécu de l'apôtre Paul, hein, il n'est pas en train de leur faire une grande théorie, il est en train de le vivre par l'exemple et dans la pratique. Ils le voient. Ils disent, waouh, moi aussi je veux comme l'apôtre Paul en Jésus-Christ apprendre ce secret qui est possible en Dieu, de la joie dans la souffrance. On le retrouve dans l'apôtre, dans l'épître aux Philippiens. Voilà que quelques années ont passé, et Paul a un bon souvenir. Il dit je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Vous avez vu, il leur dit pas ce que je garde quand même dans mes souvenirs, c'est quand même les coups que j'ai reçus, hein. C'est resté là, hein. Il dit non, moi, le souvenir que je garde, c'est la joie que vous avez pris part à l'évangile. Moi, je m'émerveille, leur dit-il, de ce que, comme moi, qui était autrefois perdu, eh bien, vous aussi, vous ayez rencontré Jésus et que vous aussi, vous ayez découvert ce secret de la joie dans la souffrance. Et je me réjouis de l'œuvre que Dieu fait dans votre vie. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est formidable, mes amis, de voir dans votre vie comment Dieu rentre dans votre existence. Et il travaille. Et il continue. Et il ira jusqu'au bout. Lorsque Paul, donc, écrit là aux Philippiens, quelques années ont passé, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, lui, après avoir évangélisé, etc., etc., les circonstances ont fait qu'il a été emprisonné et il en a appelé, parce qu'il est citoyen romain, à la loi impériale, plutôt que provinciale. Et donc, il a été amené à Rome et il attend son procès. Et il ne sait pas comment ça va tourner. Il est en prison, il a un certain âge, et ça fait 2 ans déjà qu'il est en prison. Et il attend le jugement, il attend le verdict. Et il ne sait pas trop. Parallèlement, les chrétiens dans cette église de la ville de Philippe avaient à cœur de pouvoir, quand ils ont appris que l'apôtre Paul traversait ces moments difficiles, qu'il était en prison, etc., ils ont eu à cœur de pouvoir l'aider. D'abord l'aider financièrement, parce que on est en prison certes, mais enfin, c'est pas nourri, logé, blanchi, hein. Si vous n'avez pas des gens qui vous apportent la nourriture de l'extérieur, vous ne mangez pas grand-chose. Si vous n'avez pas des gens qui vous apportent les vêtements, vous n'êtes pas... Comprenez ? Alors ils vont participer. Ils disent, nous on veut te soutenir en prison, et puis on va t'envoyer un de nos chers frères. Il s'appelle Épaphrodite. C'était un chrétien de Philippe qui s'appelle Épaphrodite et qui va être envoyé un petit peu comme un serviteur, comme un auxiliaire, comme une aide, comme un ami. On dit, allez, on te l'envoie et il va être à tes côtés. Un beau projet. Mais Épaphrodite, eh bien, dans le voyage qu'il va faire, ben, il va probablement contracter un virus, quelque chose en tout cas, nous l'apprenons dans cette lettre, il va tomber malade et il va être à 2 doigts de la mort. Mais il va être dans un état de santé physique, il va choper un truc, il va vraiment passer près du linceul. Et en fait, son état de santé est tel que ça lui permet pas de rester, ça lui permet pas de pouvoir aider Paul, et Paul va prendre la décision de le renvoyer maintenant qu'il est en rétablissement un petit peu mieux, mais voilà. Et c'est vrai qu'on, des fois on dit, on fait des projets, on fait des trucs et on dit, mais c'est pas possible, pourquoi il est tombé malade? Pourquoi cette tristesse supplémentaire ? Eh bien, Paul, là-dedans, leur dit, c'est vrai. Vous savez quoi ? C'est pas pour rien. Et ça n'enlève pas ma joie. Et il va les encourager en disant, vous aussi, cultivez cette gestion de la souffrance à partir du trésor que vous avez trouvé en Jésus-Christ. Alors nous entrons dans ce vif du sujet et je vous invite à lire un verset dans Philippiens, Philippiens 1, un verset étonnant. C'est le verset 29. Philippiens 1, 29 dit la chose suivante. C'est donc la conclusion de Paul quand il parle de, dans ce chapitre. Il dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Quelque chose d'étonnant est dit là. Il dit, il vous a été fait un merveilleux cadeau. C'est ça une grâce. Hein? Quand on a une grâce, c'est un cadeau merveilleux et immérité. Mais il dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive. Non seulement de pouvoir croire en Jésus, et ça c'est extraordinaire pour un être humain, de pouvoir se réconcilier avec l'auteur de ses jours, de sa vie, de son créateur, de savoir que là où il a fauté, là où il serait redevable, eh bien, il est pardonné. Extraordinaire. Extraordinaire. Il dit, mais le cadeau que vous avez reçu, ça ne s'arrête pas à cette assurance du pardon de vos péchés. Ça ne s'arrête pas au fait que quand vous quitterez cette existence terrestre, vous serez dans la présence du Seigneur pour toujours. Ça ne s'arrête pas à ça. Ce cadeau extraordinaire que vous avez reçu, c'est aussi de souffrir pour Christ. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et là on dit, mais ça va pas non. En quoi est-ce que c'est un cadeau quand on me dit souffrir pour Christ, souffrir en Christ, je ne comprends. Paul leur a montré par l'exemple de sa vie ce que ça veut dire. Et nous allons voir dans l'épître de Pierre, plus théoriquement, les exemples, ce que ça veut dire. Ça veut dire que quel est le cadeau extraordinaire que Dieu fait à un être humain lorsqu'il le rencontre en Jésus-Christ. On l'a dit au tout début, la souffrance dans la vie de l'être humain est quoi ? Il y a un cadeau extraordinaire, c'est de pouvoir en tant qu'être humain affronter cette souffrance de la même manière que l'apôtre. Ce miracle et cette chose incompréhensible qui fait que alors qu'il est en prison, il est capable de chanter, c'est ce miracle et c'est tous ces miracles où Dieu nous dit à Jésus, c'est pas juste que vous êtes pardonné de vos péchés, c'est pas juste que vous avez la vie éternelle, c'est que dès aujourd'hui, par rapport au sujet de la souffrance, vous pouvez la vivre autrement. Vous pouvez la vivre autrement. Et ça change tout. Alors on se lance. Hein ? D'abord, nous allons donc en 1 Pierre, effectivement. Voilà une épître maintenant qu'on va beaucoup ouvrir. Une épître qui parle de la souffrance. En 1 Pierre 2, au verset 19, nous retrouvons les mêmes expressions. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ça, c'est bizarre. Hein? Il dit, attends, je souffre injustement, là? Attends, c'est un cadeau? 2.19, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Alors, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle simplement de ce qu'un chrétien peut souffrir parce que... Non. Regardez le verset de conscience et support des afflictions, l'exemple qui est donné juste avant. Je vais vous le lire. Soyez soumis non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Qui n'a pas rencontré un patron pénible ? Là, il est en train de parler des patrons et des employés. Ce n'est pas réservé aux chrétiens, hein, de tomber sur des patrons pénibles. Hein. Non, mais... Il dit, voilà. Il dit, c'est vrai, dans le monde professionnel, il dit, ça vous arrive d'avoir... C'est tant mieux quand vous avez des patrons, il dit, bons et doux. Il y a des patrons bienveillants, il y a des patrons, ça roule, ça se passe bien. Ça se passe bien. Puis, il dit, il y a des patrons... Comme tout un chacun dans la vie, ben, vous pouvez tomber sur des patrons difficiles, pénibles, qui vont vous chercher des poux, qui vont vous faire des problèmes et qui vont vous faire la misère. Et là commence tout un enseignement sur le fait, nous, ces souffrances du quotidien, de la vie, de tout un chacun. Voilà un exemple. Comment je peux les traverser différemment en Christ ? Et il dit, ça, c'est une grâce que vous avez reçue, c'est que vous pouvez le vivre différemment. Il dit, au verset 20, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Est-ce que Jésus-Christ a eu des motifs de souffrance dans la vie? Oui. Et il les a traversés d'une manière qui ne lui a pas enlevé sa joie. Est-ce que Paul a eu des motifs de souffrance dans sa vie? Oui. Il les a traversés d'une manière qui ne lui a pas enlevé sa joie. Et ça, c'est le beau cadeau. C'est cette grâce. Dieu nous dit, c'est non seulement tu peux croire en moi, mais en plus tu peux traverser ton existence d'être humain avec un rapport transformé vis-à-vis de la souffrance. Alors, oui, ici, je peux avoir un patron pénible. Je peux dans ma vie être cambriolé. Je peux tomber sur des professeurs qui ne prennent pas vraiment en considération, par exemple, mes enfants, une maîtresse qui n'arrête pas de crier, etc. Des tas de choses, il y a des bons, il y a des moins bons, etc. Et il y a des tas de situations comme ça où on dit c'est lourd, c'est pénible, c'est... On peut, comme Épaphrodite, tomber malade. On peut avoir un conjoint qui nous quitte. On peut, et puis vous commencez à mettre bout à bout toutes ces choses de cette vie qui, de toute façon, arrivent à tout un chacun. Comme le fait d'avoir un patron plutôt bon et doux, ou plutôt un patron qui a un caractère difficile. C'est comme ça. Seulement, le cadeau qui nous est fait, c'est de pouvoir vivre cette souffrance sans nous laisser voler la joie. En Jésus. Alors, là, Pierre va dire, attention, ne soyons pas non plus naïfs, il y a des souffrances qui sont issues de nos propres dysfonctionnements. Il dit, ne confondons pas tout. Dans la vie, il y a aussi des choses dont on souffre et qui sont issus de nos propres dysfonctionnements. Il le dit, par exemple, au chapitre 4, verset 15. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Mais que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Hein, il dit, attention, dans l'existence, des fois, on souffre, mais il y a certaines souffrances, elles viennent de vos dysfonctionnements. Il le dira encore au chapitre 2, verset 20. Il dit, c'est justement dans le contexte du serviteur et du maître, hein, dans le contexte professionnel. Il dit, verset 20, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Il dit, écoutez, si vous êtes au boulot et que vous avez fait des bêtises, et vous avez des sanctions, ben c'est la vie. Hein ? Souffrance professionnelle, ok, mais... comme ça. Hein, on n'est pas en train de parler de supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Il y a des souffrances qui sont relatives à nos dysfonctionnements. Et Paul, là, il dit, Pierre, il dit, ça, faut simplement l'accepter. Hein. Mais par contre, il y a toute une souffrance où c'est pas le problème de nos dysfonctionnements, c'est... J'ai un patron d'un caractère difficile. J'ai un patron d'un caractère difficile. C'est tout. Et j'y suis confronté. Comment je fais ? Alors, la première ligne de conduite, nous revenons à Philippiens, c'est l'exhortation du verset 27. Philippiens 1, 27, il dit seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et quand il dit cela, il le dit spécifiquement en rapport avec la gestion de la souffrance. Il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de Christ, demeurez ferme, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Nous allons retrouver cela dans l'épître de Pierre. Il dit « Voilà, d'abord, quoi qu'il en soit, dans la souffrance, ne prenez pas l'échappatoire de ne plus faire ce qui est bien. » Et là, nous sommes en train vraiment de rentrer dans le cœur des choses. L'être humain, de toute façon, est confronté à la souffrance. Quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour en moins souffrir, pour y échapper ? Il y a des mauvais mécanismes. Et il y en a qui sont selon Dieu. Regardez, un premier mécanisme qui nous est donné, c'est l'exemple de Jésus-Christ. On reprend 1 Pierre 2, l'exemple des mauvais traitements dans le milieu professionnel. Il dit, vous avez été appelé à ça, hein, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. Voilà une première réaction. Mon patron, il me prend la tête. Attends, je vais lui crever ses pneus, lui. Non, attends, ça va pas se passer comme ça, là. Il veut la guerre ? Il va avoir la guerre. Non, dans le couple, c'est comme ça partout. Ok. Il dit, attends, Christ, injurié, ne rendez point d'injure. Il dit, non, mais ça me dépasse, ça c'est plus... Je ne peux pas. Rencontre Jésus-Christ. Et ta gestion de ta souffrance, elle va changer. Alors oui, on peut avoir ce premier mécanisme, je rentre en guerre. Il m'a fait ça, œil pour œil, dent pour dent, bam. Attends, je vais me défendre. Hein. Ça va. Escalade de la violence, etc. Okay. D'autres choses. Hein. plein de mécanismes comme ça qu'on peut mettre en œuvre, l'épître de Pierre les détails, ça peut être simplement le plaisir. Pour ne pas souffrir, je me fais au maximum plaisir. Pour ne pas souffrir, je n'aime que les gens qui m'aiment. Pour ne pas souffrir, et voilà. Et nous avons des tas de mécanismes que nous mettons en œuvre dans notre vie pour nous éviter au maximum de souffrir. Et c'est humain. Mais il y a des mécanismes qui sont destructeurs et mortifères et qui en fait nous plongent et nous abîment. Et c'est là où Dieu veut venir mettre sa main dans nos vies pour dire, écoute, il t'a été fait la grâce non seulement de croire en moi, mais d'apprendre à vivre les souffrances de tout un chacun d'une toute nouvelle manière, sur une toute nouvelle base. Alors la première de ces choses, il dit, fais ce qui est bien. Regardez avec moi dans l'épître de Pierre à plusieurs reprises. 1 Pierre 1, verset 12. Je me suis trompé de verset. Bon, c'est pas grave. Au verset. Au verset 20, oui. Au verset 20. Non, c'est pas là non plus. Je pense que j'ai un chapitre de décalage. Oui, j'ai un chapitre de décalage. Saint Pierre 2. 1 Pierre 2, il dit, au verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Voilà. Afin que, même si vous calomniez, vous tenez votre bonne conduite. Comme ça, ils remarquent vos bonnes œuvres malgré tout, dit-il. Au verset 14-15, il dit, vous savez, il y a des gouverneurs, hein, ils sont envoyés pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous continuez de faire ce qui est bien. Au verset 20, pareil, hein, il dit, supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. Au chapitre 3, verset 13, il dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Il dit, il faut arrêter d'être parano, hein. Pas être psychopathe, hein. Vous savez, dans la vie, en général, quand on fait ce qui est bien, il n'y a personne qui est là pour vous maltraiter. Hein. Enfin, hein. Et si tu bosses bien avec un patron normal, en général, ça va tout aussi. Hein. Si tu es un voisin à peu près équilibré et normal, en général, tu n'as pas de problème avec tes voisins. Si tu es un citoyen qui n'est pas en train de truquer ses impôts, ses machins, etc. En général, tu n'as pas de problème, hein, avec la justice. Hein. Il dit, mais par contre, ça arrive quand même. Il dit, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Il dit, oh, faut arrêter la paranoïa. Hein. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. Il dit, ça peut arriver. On peut tomber sur des cas particuliers. Mais attention, hein, faut pas être parano. Hein. En général, quand tu fais ce qu'il faut, on n'est pas là à s'acharner sur toi. Hein. Donc, continue de faire ce qu'il faut. Continue de conduire d'une manière digne de l'Évangile. Il dit encore au verset 17, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et voilà, de toute façon, il est possible que dans le plan de Dieu, on y reviendra tout à l'heure, mais il permet les épreuves, il permet ces moments difficiles, il permet la souffrance dans ta vie. Elle a un sens, on y reviendra, mais il dit, mais par contre, attention, Si telle est la volonté de Dieu, il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et voilà un petit peu ce qu'il appelle au chapitre 4, verset 16, le fait de souffrir comme chrétien. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et ça va à l'encontre du verset 15 juste avant, hein, que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Il dit voilà, tu souffres parce que tu fais des bêtises, ben écoute, ben voilà. Maintenant, si tu te conduis en chrétien, si tu te conduis d'une manière digne de l'évangile, tu as ce zèle pour faire ce qui est bien et que malgré tout, ben, il y a des épines, il y a des soucis, ok. Continue de faire ce qui est bien. On va donc faire ce qui est bien, c'est rejeter donc tous ces processus que nous avons qui vont nous détruire, qui sont mortifères. On a vu l'exemple de Jésus-Christ. Injurier ne rendait pas l'injure. Nous avons un ordre en 1 Pierre, hein, 1 Pierre 3, verset 9. Le même ordre est donné. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuit. Et voilà. Continue de faire ce qui est bien. Et nous avons, et nous terminons là-dessus, des ressources. D'abord, et c'est là où, terminons sur quelque chose d'important, l'être humain, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a de la souffrance dans sa vie, on est d'accord. Il peut avoir des processus destructeurs ou des processus constructeurs. Et d'ailleurs, la psychologie a fait aussi du bon travail dans ce domaine. Tous ces processus qui en fait nous abîment. Mais Dieu là-dedans. Et c'est là où Dieu nous dit, mais si tu rencontres le Dieu de la vie, il va y avoir en plus toute une autre dimension qui se met en œuvre dans ta vie. D'abord, l'épreuve a du sens et est fructueuse. 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 1, commence par là. Il dit, au verset 6, regardez 1 Pierre 1, 6. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit, c'est vrai, en ce moment, difficile pour vous. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, c'est vrai, en ce moment, vous passez par des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire, etc. Il dit, la souffrance dans la main de Dieu, elle n'est jamais vaine. Elle a toujours du sens et Dieu va s'en servir pour construire dans votre vie. Nous le retrouvons dans l'épître de Jacques. Jacques, au chapitre 1, alors, dit la chose suivante, mes frères, verset 2, considérez, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors là, il nous dit, c'est un truc du délire, et vous avez vu les épreuves qui vous arrivent,
Regardez-les comme un sujet de joie complète. Il est fou, pourquoi ? Comment est-ce que je peux voir mon patron si pénible comme un sujet de joie ? C'est pas possible. Ici, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Il dit, c'est la difficulté qui nous construit. C'est l'épreuve qui nous façonne. Je suis en train de faire dans votre vie des choses solides et belles à partir de la souffrance et des épreuves. Ça, c'est quelque chose que seul le chrétien peut avoir. Cette certitude que ce qu'il traverse dans la vie, Dieu est au-dessus, Dieu le contrôle, Dieu le permet, et Dieu s'en sert pour quelque chose de fructueux. Il dit, c'est pas pour rien. Et ça, c'est merveilleux. Quelle grâce, quel cadeau on reçoit quand on rencontre Jésus-Christ. Parce qu'on dit, attends, ça veut dire que les choses difficiles dans mon existence, elles ont du sens. Tu veux faire quelque chose de beau dans ma vie à travers elles. Au point même que finalement, je peux même les regarder comme un sujet de joie complète. Parce que je vois ce que ça va façonner et créer. Si on revient dans Philippiens, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Regardez le verset 12, Philippiens 1, verset 12. Le gars, il est en prison, ça fait 2 ans qu'il est en prison. Pour dire, il y a quoi de bien qui en sort ? Il y a quoi de bien ? Paul, il dit, attendez, regardez les gars. Il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Il dit, vous savez, vous voulez que je vous dise, depuis que je suis rentré en prison ? Oui ? Vous voulez que je vous dise ? Attends, c'est pas... Il dit, attendez, je serais mieux ailleurs qu'en prison, hein ? On est bien d'accord. Malgré tout, dis-moi ce que je vois. C'est que la prison m'a ouvert des portes. On dit pourtant, normalement, on les ferme. Et oui. Et oui, mais voilà tout un milieu auquel je n'avais pas accès. On est dans la garde prétorienne, c'est-à-dire on est dans le cercle restreint de l'empereur. Hein. On est vraiment auprès de l'empereur à Rome. Donc ça touche une partie de la juridiction romaine qu'on n'approchait pas tous les jours, hein, le prétoire. Et il dit, vous savez quoi ? Ils ne connaissaient pas Jésus ? Ils n'avaient jamais entendu l'occasion de parler de Jésus ? Eh bien écoutez, Seigneur, il m'a conduit dans cette prison, il n'y en a pas un seul dans tout ce microcosme, hein, qui du coup a pas... Ah ben vrai, ils ont découvert Jésus, ils ont découvert... Il y a un témoignage dans le cercle rapproché de l'empereur. Il dit, ben finalement, pour atteindre ce milieu-là, ben écoute, si le Seigneur a choisi que je sois en prison, en tout cas, moi, je vois que le résultat, c'est qu'il y a des gens qui connaissent, c'est pas Jésus qui maintenant le connaissent, dans ce milieu-là. Il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a un deuxième truc là. C'est que avant j'étais peut-être un petit peu tout seul à témoigner. Et bien, vous savez quoi ? Depuis que je suis en prison, les chrétiens romains ils se sont réveillés. Il dit, ça les a boostés. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, c'est-à-dire par ma captivité en prison, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Il dit, ça c'est un miracle. D'habitude, ça aurait dû faire l'effet contraire. Vous savez, il a parlé de Jésus, maintenant il est en prison, bah, alors nous on va se taire, on ne va plus parler, on ne veut pas finir en prison. Il dit non, c'est le contraire qui s'est passé. Ça les a solidifiés. Et bien vous saviez quoi, avant j'étais tout seul, maintenant on est 30. Voilà. Il dit, moi je vois ce résultat-là, hein. Je vois que j'ai eu accès à toute la garde impériale. Et puis je vois qu'en plus, au lieu d'être tout seul, on est 30 maintenant à témoigner de Jésus. Oui, c'est vrai, par contre, je trinque hein, quand même. En prison, c'est... Enfin, il dit, hein, si je peux sortir, je sors. Hein. Mais malgré tout, il dit, je loue le Seigneur. Que c'est pas pour rien. Ça a du sens, le Seigneur permet cette souffrance. Mais il construit des choses extraordinaires et belles à travers ça. L'épreuve fructueuse. Après, les autres ressources que le chrétien a, il remet son âme à celui qui juge justement. Nous savons que Dieu est le Dieu de la justice. Nous revenons dans 1 Pierre, hein, c'est Jésus lui-même qui ne rendait pas l'injure, mais qui remettait son âme à celui qui juge justement. Vous savez, ce qui nous met beaucoup en colère, c'est de dire il n'y a pas de justice. Je souffre, il a fait ça, etc. Et de toute façon, ça ne sera pas solutionné. Il s'en tirera bon compte. Le Seigneur est celui qui fait justice. Il fera justice, quoi qu'il en soit. Et 1 Pierre nous dit, je peux remettre mon âme à celui qui juge justement. Je peux remettre mon âme au fidèle Créateur, chapitre 4, verset 19. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Tu continues ta ligne de conduite, ce qui est bien. Et tu as cette possibilité d'amener ton âme, de dire à Jésus ce qui te fait souffrir, de lui porter, de lui confier, de lui parler. Tu n'es pas seul, tu sais que tu as son oreille, tu sais qu'il, tu es précieux pour lui et tu sais qu'il agit. Après, il dit, il va t'arriver quelque chose aussi dans la souffrance, 1 Pierre 4, 14. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il dit, dans la souffrance, quand tu choisis de la vivre en Jésus-Christ, il y a un miracle qui se produit, c'est que l'Esprit de Dieu vient reposer sur toi. Tu n'es pas seul. Il va produire son fruit. Il dit, vous êtes heureux. Oui, la joie. La joie en dépit de la souffrance. Nous le voyons au travers de cette épître. Nous le voyons au travers de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, ce matin? Est-ce que nous voulons apprendre? Dire, c'est vrai Seigneur, de toute façon la vie chrétienne, attention hein, ceux qui s'attendent à la vie chrétienne en disant je vais devenir chrétien, comme ça ma vie va devenir un long fleuve tranquille, tout sera rose, le Seigneur va mettre des bénédictions tout ça, on se fourre le doigt dans l'œil. La souffrance, c'est le lot commun de tous les êtres humains, chrétien, non chrétien, dans un monde déchu, perdu. Mais nous pouvons traverser l'existence en découvrant comment vivre cette souffrance, en trouvant la joie de Jésus-Christ dedans. Et il dit ça, c'est une grâce qui vous a été faite. Saisissez-le. Découvrez-le jour après jour. On dit c'est pas possible. Et c'est justement cette belle lettre aux Philippiens. Quand Paul leur écrit, il parle par expérience. Et les Philippiens ont vu Paul. Ils l'ont vu se faire flageller sur la place publique, arracher les vêtements, jeter en prison. et ils l'ont entendu chanter dans la prison. Il dit, mais moi, ça je le veux aussi. Eh bien, nous pouvons le trouver et le vivre en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, tu t'adresses à nous en tant qu'êtres humains qui sommes confrontés de bien des manières à des choses qui nous font souffrir. Et la souffrance, c'est une question devant laquelle tu ne recules pas, Seigneur. Et Seigneur, tu veux nous faire découvrir un miracle en te rencontrant, en marchant avec toi. Comme Paul a découvrir en toi comment ne pas perdre la joie dans la souffrance. Et ce miracle, Seigneur, tu l'accomplis. Je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous dans nos souffrances, pour que nous puissions, avec espoir, avec espérance, saisir, percevoir que tu veux nous trouver au cœur de nos souffrances, pour nous tirer de nos défenses, de nos réactions mortifères et destructrices, pour faire ce ménage et pour que, quand bien même dans la souffrance, Seigneur, nous puissions vivre comme l'apôtre Paul, en gardant dans le cœur une forme de joie attestée que personne ne peut enlever et qui est si précieuse. Merci pour cette grâce que tu nous fais, au nom de Jésus. Amen.